Etc. Bien sûr, elle est extrêmement riche et elle contient une quantité astronomique de mitzvot. Part non négligeable des 613 mitzvot se trouve toutes dans cette paracha de Kitetsé. C'est difficile de trouver, je n'aurais pas trouvé un fil conducteur dans Kitetsé, vu justement la diversité de tous les sujets qui sont traités. Ça parle de tous les sujets de la vie, bon. C'est ça le sujet de, enfin, le fil conducteur. J'ai rien de plus précis. Ça commence par, le récit d'une situation tout à fait particulière et ça termine par une mitzvah très importante, mais aussi quand même très singulière. Ça joue un rôle très important, bien que on sache pas très clairement comment cette dernière mitzvah, qui est la mitzvah de se souvenir d'Amalek et de détruire le souvenir d'Amalek, qui est aujourd'hui Amalek, à qui s'adresse cette mitzvah? Est-ce qu'elle s'adresse aux individus? Est-ce qu'elle s'adresse au roi? Est-ce qu'elle s'adresse à la collectivité? Je vais tout de suite dire quelque chose justement sur cette mitzvah d'Amalek. Une question qui est posée. Ce qui est dit sur Malek. Alors, c'est tout à la fin de la paracha, c'est les derniers mots de la paracha. Cette mitzvah de d'Amalek. Et il est dit. Donc, vous prenez au, c'est le maftir, donc le passage Yud Zayin du chapitre 25, 25-17, donc Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, Vaderech Yetzeetchem Mimitzrayim. Donc Zachor, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek, quand tu étais en chemin au moment de vous sortir d'Égypte, Asher Korcho Baderech, il t'a refroidi en chemin. Et en fait, il a attaqué, évidemment, Amalek a attaqué ce qui était les traînards de l'enclave Israël, mais traînard au sens probablement moral. Traînard au sens où il ne suivait pas effectivement ce que les Bnei Israël avaient à faire et de ce fait, il n'était pas vraiment protégé par les nuées qui protégeaient les Bnei Israël, comme s'ils étaient un peu sortis de la nuée. Donc, ils étaient attaquables. Vata, Yagea, Velo, Yare, Elohim. Et ne craignant pas Elohim. Alors quand tu le pourras, tu le détruiras. Cette caractéristique, lo yare Elohim, on nous dit ici que, enfin, c'est une discussion pour savoir de qui parle-t-on quand on dit qu'il ne craignait pas Elohim. Rashi dit, lo yare Elohim, Rashi dit, lo yare Amalek, Elohim milehara lecha. Amalek ne craignait pas Elohim, et parce qu'il ne craignait pas Elohim, il pouvait t'attaquer, ou si vous préférez, attaquer le peuple d'Hachem, c'est montrer qu'on ne craint pas Elohim. Donc on pose la question de savoir pourquoi est-ce uniquement chez Amalek qu'on trouve ce qualificatif, il ne craignait pas Elohim. Surtout que comment se manifeste le fait de ne pas craindre Elohim par le fait d'attaquer le peuple d'Elohim. Mais les Cananéens, eux aussi ont attaqué, comme on a vu dans Parshat Troukat, Sichon, Og, tous ces gens-là, tous ces peuples ont bien attaqué les Bnei Israël. Et donc, si attaquer le peuple d'Israël, c'est manquer de Yirat Elohim, pourquoi est-ce qu'il n'y a que sur Amalek qu'on dit que lui, il n'était pas, il ne craignait pas Elohim, mais on ne le dit pas sur les autres, sur tous les autres peuples? Alors, à Brisk, on a répondu de la manière suivante. Il y a une Gemara qui dit la chose suivante. Sha'alu talmidav et Rabbi Yochanan ben Zakkai. Les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai l'ont interrogé. Ils l'ont demandé, Mipnema ichmira Torah Beganav yoter mi begazlan. La différence entre Ganav et Gazlan, qui sont tous les deux des voleurs, c'est qu'il y en a un qui vole en se cachant du fait qu'il vole. Il vient la nuit, il vient en cachette. Et puis il y en a un autre qui vole, voilà, il arrache le sac des vieilles dames dans la rue. Donc, il vole ouvertement sous le soleil. Donc, on voit que la Torah, elle est plus sévère pour le ganav que pour le gazlan. Et donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai a répondu à ses élèves, Zeh ishva kvod eved lichvod kono, zeh lo ishva kvod eved lichvod kono. L'un a mis le respect, les honneurs, disons, enfin, qu'il donne à un esclave à la même hauteur que le respect dû au maître. Et l'autre, on ne l'a pas fait. C'est-à-dire, il y en a un qui a fait comme si l'œil d'en bas, la vision des gens, c'est comme si on voyait pas, on ne voit pas, on n'entend pas. Mais a priori, nous, on pourrait penser que c'est exactement le contraire. Le gazlan, il est pire parce que lui, il vole ouvertement, donc il a le culot de voler en plein jour. Le ganav, au moins, il se cache. Il a d'une certaine manière honte de ce qu'il fait, il se cache. Et dans la Gemara, on voit que c'est pas comme ça. L'explication, c'est, de la Gemara, c'est que le gazlan, il faut comprendre ici, c'est quelqu'un qui il agit sans trop réfléchir. Il fait pas des grands calculs. Il fait ce qui lui passe par la tête. Le ganav, donc celui qui s'est caché, etc., lui, c'est quelqu'un qui il prévoit, il fait des plans. Donc il calcule, il tient compte de ceci et de cela. Et c'est pour ça que finalement, il vient, il se cache, il agit quand on ne le voit pas. Alors la Gemara, elle vient nous enseigner que contre lui, il y a une accusation beaucoup plus forte que contre celui qui agit légèrement, sans réfléchir. L'accusation, elle est, puisque tu as fait des calculs, tu as pris en compte toutes sortes de facteurs, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris en compte le fait que Hachem a dit que c'était interdit de voler? Et en cela, il est plus mauvais que le gazlan qui, lui, il n'a fait aucun cheshbon, il a agi comme ça impulsivement. Et donc, c'est ici aussi, ça permet aussi d'expliquer la singularité d'Amalek par rapport à tous les autres. Les autres peuples ont fait la guerre contre Israël sans faire des calculs. Mais Amalek, il a réfléchi quand il a attaqué. Il a attendu les Bnei Israël quand ils étaient fatigués. Et à ce moment-là, il a attaqué. Ayef ve'yageh. Et donc, contre lui, il y a une ta'ana, il y a une accusation bien plus forte. Pourquoi est-ce que tu n'as pas tenu compte d'Hachem dans tes calculs? Donc, on voit que il n'a pas tenu compte d'Hachem, il n'a pas craint Hachem. Ça l'a pas empêché, donc, de faire du mal au peuple d'Hachem. C'est pour ça que le pasuk dit, Ve'ata ayef ve'yageh ve'lo yare Elohim. C'est pour ça que cette Mida Keneged Mida, Milchama, l'Hachem ba'Amalek, Midor Dor. C'est une guerre d'Hachem contre Amalek. Parce qu'Amalek, c'est celui qui ne craint pas Hachem. La guerre contre Sichon et Og, etc., c'est une guerre des Bnei Israël contre des ennemis. Alors Hachem va aider les Bnei Israël, mais la guerre, elle n'est pas faite par les ennemis contre Hachem. Tandis qu'Amalek, il fait une guerre contre Hachem. C'est la raison pour laquelle dans le Torah, on dit uniquement sur Amalek, lui, il n'est pas Yahvé Elohim. Oui.
N'y
A aucune. C'est-à-dire que on considère que les autres peuples, ils ont fait la guerre. Israël arrive, on fait la guerre. Ils ne sont pas demandés, parce que peut-être il faut les attendre au tournant, il faut les attendre ici ou là-bas. Amalek, le passouk nous dit, Ata ayef ve'yareh. C'est dans le même verset, au point que c'est même difficile de dire que ve'yareh Elohim n'est pas, ne concerne pas les mêmes de ceux qui sont concernés par la suite, par les autres mots du verset, Ata, Ayef, Veyagea, ça c'est Israël. Dire dans le même verset, tu es fatigué et ne crains pas Elohim, c'est difficile de dire, de partager, et de dire, ne crains pas Elohim, c'est Amalek. Celui qui est fatigué, c'est Israël. Dans le même verset. C'est pour ça qu'en fait, on veut dire, le fait de dire qu'Israël était fatigué et donc attaquable plus facilement, c'est ça qui nous montre qu'il n'était pas Yahvé Elohim. Parce que il a tenu compte de la fatigue pour attaquer au moment de la fatigue. Donc tu fais des cheshbonot, tu as calculé quand, oui, etc. Et tu n'as pas mis Hachem dans les cheshbonot. T'as pas tenu compte d'Hachem. Du coup, ça veut dire que tu fais une guerre contre Hachem. C'est intéressant. Comment est-ce qu'on fait la guerre contre Hachem? En tenant pas compte d'Hachem. Les autres peuples, ils n'ont pas réfléchi. Ils ont fait la guerre. Il y a Israël, ils ont eu peur d'Israël, donc ils ont fait la guerre.
La patrimoine d'Hachem, ça veut dire qu'il revenait à Hachem.
Oui, non, bien sûr qu'il sait qu'il y a Hachem, mais il n'en tient pas compte. Il sait que les Bnei Israël, ils ont un Dieu, et que ce Dieu les a aidés à sortir d'Égypte, etc. Mais il pense qu'il peut faire la guerre contre Hachem, si vous voulez. Faire la guerre contre le peuple d'Hachem, quand tu sais ce qui est arrivé à ce peuple, c'est faire la guerre contre Hachem. Et puisque tu as calculé, c'est ça qu'il veut dire. Ce que Brice qui voulait dire, puisqu'il a calculé et qu'il n'a pas calculé Hachem, comme disent les enfants, alors ça veut dire qu'il a fait la guerre contre Hachem.
Rapporter ça maintenant que ceux qui n'adhèrent pas à HM, ils sont contre HM.
Ce n'est pas qu'il n'adhère pas. C'est une chose de ne pas adhérer parce qu'on a un autre Dieu, parce qu'on a une autre philosophie, etc. C'en est une autre de savoir tout ce qui s'est passé et de dire, ben, j'en tiens pas compte. Tu vois bien qu'Hachem s'occupe de ce peuple. Donc attaquer ce peuple, c'est attaquer Hachem. Ok, tu t'en fiches. J'en tiens pas compte. Ah, Hachem, il va faire des miracles pour les gens. Ça m'est égal. Parce que, ultimement, ce qu'Amalek a montré, si on fait le bilan de l'intervention d'Amalek, il a montré qu'Israël était attaquable. Alors que, quand vous écoutez les paroles de la Shira, dans le cantique de la mer, on voit très bien que les peuples sont paralysés. Personne ne bouge. Les Bnei Israël, c'est une promenade de santé. Ils avancent, personne ne bouge.
C'est marrant
Ils
ce que
sont
tu dis.
paralysés. Et donc cette idée, non, Israël est inattaquable, c'est insupportable à Amalek. Et donc je vais l'attaquer. Ils savent très bien que là, dans l'image, la baignoire est bouillante. Ils savent très bien qu'ils vont s'ébouillanter, mais quand ils ont quand même rafraîchi la baignoire, l'eau est quand même devenue moins chaude. C'est-à-dire, Israël est attaquable. Il a montré qu'il était attaquable. Dans l'époque actuelle, certains disent que l'attaque de Kippour, c'était pour montrer que Israël, qui était considéré comme inattaquable après la guerre des six jours, on peut attaquer. Alors, en plus, ils ont choisi Kippour, donc ils ont bien réfléchi. Ils ont choisi Kippour, les gens seraient occupés, etc. Donc, on pourra les faire. Ils n'ont pas compté qu'au contraire, ce sera plus facile de rassembler tout le monde parce que les gens sont, il suffit d'aller dans toutes les synagogues et on va rassembler les gens. Mais bon, ils ont malheureusement, pendant un moment donné, on pensait bien qu'ils étaient en train de réussir. Et la lutte, la guerre contre Amalek qui a eu lieu, ici on parle de façon générale de l'obligation, mais la guerre que Moshe Rabbeinu a faite avec chef des armées, Yoshua, qui lui était sur le terrain, et Moshe Rabbeinu était sur la colline avec les bras vers le haut, etc. On voit bien que c'était vraiment la guerre contre Hachem, parce que les Bnei Israël ne gagnaient que quand ils pensaient à Hachem. Les bras vers le haut de Moshe, ça les poussait à penser que les choses dépendaient d'Hachem. À ce moment-là, il gagnait. Mais quand Moshe Rabbeinu baissait les bras, perdait. Et on a fait déjà remarquer en son temps que ce qui était frappant, en quelque sorte, c'est que il n'y a pas de rémanence. Ça veut dire, normalement, quand Moshe Rabbeinu avait les mains vers le haut et les Bnei Israël pensaient à Hachem, on a pu penser que quand Moshe Rabbeinu va baisser les bras, ils vont continuer de penser. Voilà. Ben non, immédiatement, s'il n'y avait pas ce rappel, immédiatement, il perdait. Comme si, c'est toujours cette idée que les miracles, ça fait pas les choses, quoi. Ça change pas les choses de façon, non pas même pas définitive, mais ça change pas les choses pour à long terme. Les miracles, sur le moment, éventuellement, ça a un impact, mais ça laisse pas de traces. Voilà, donc ça c'est juste un petit point sur l'histoire d'Amalek. Bon, alors, je choisis quelques points puisque on va regarder une question de Rabbi Jacob Kamenetsky dans Emet le Yaakov. Marqué que dans le chapitre 25, au tout début du chapitre 25, premier verset, verset est construit un peu de façon particulière, finalement. Verset 10, vous l'avez donc 25.1. Qui yériv ben anachim. Quand il y aura une dispute entre les gens. Vnikshu el hamishpat. Et donc, et ils vont aller au tribunal. Veshavtum. Et on va les juger. Et donc, le tribunal va vitzdiku et tzadik. C'est-à-dire, littéralement, ça veut dire, ils diront que le tzaddik est tzaddik, ils diront qui a raison, virshiu est un rachat, et ils diront que le rachat est un rachat, ils diront qui n'a pas raison. Alors, le Emet le Yaakov, il dit ici tout un sujet important. Le mot tzaddik, ici, il veut pas dire que c'est un tzaddik. C'est pas, on n'est pas en train de dire que c'est injuste. C'est des gens qui ont un conflit. Un disait, tu me dois cet argent, l'autre disait, non, je ne te le dois pas. Donc, c'est pas une histoire d'être tzaddik ou rachat. Donc, le mot tzaddik ici veut simplement dire, c'est que la vérité est de son côté. On trouve à d'autres endroits cette utilisation du mot tzaddik pour dire que c'est lui qui a raison. Et avec cette remarque, on peut comprendre ce que dit le Tana à la fin de Maseret Uktsin. Uktsin, c'est la dernière des Masertot du chasse. Ça parle des questions de pureté et d'impureté. Uktsin, c'est les queues d'un fruit. Mais donc savoir quel est le statut de. Alors là-bas, c'est enfin, c'est les derniers mots de la Torah orale, les Mishnayot, quoi. Atid HaKadosh Baruch Hu le'hanchil l'chol tzadik v'tzadik. Marqué que HaKadosh Baruch Hu va faire hériter tous les tzadikim, tous les justes de une multitude de mondes. On va leur faire des cadeaux, c'est des mondes. On s'est marqué, pourquoi c'est marqué le chol tzadik v'tzadik? On va faire hériter tout tzadik et tzadik. Tous les saints, tous tzaddik. C'est que cette redondance de tzaddik, veut tzaddik. Alors, un des grands commentateurs, Tosfot Yom Tov, sur la Mishnah, il dit, Nireh li lomar, ben haoser ou ben hamatir. Je veux dire qu'on parle ici que ce soit quelqu'un qui interdit ou quelqu'un qui permet. Mais a priori, cette expression de tzaddik, elle ne parle pas des sages de la Mishnah. On aurait dû dire, si on parle de celui qui permet, celui qui interdit, ce sont les sages, ce sont les mêmes rabbanim. Donc le texte, il aurait dû porter le kol chacham ve chacham, si déjà. A priori, le mot tzaddik, il va sur celui qui pratique la tzidkout, qui pratique la justice avec les autres juifs. Comme par exemple, quand on dit no, que Noach était un tzaddik, ou que Yosef était un tzaddik, c'était dans leur relation avec les autres, ils sont tzaddik. Celui qu'on appelle Binyamin HaTzaddik, celui-là, c'est quelqu'un qui était un gabaï de Tzedaka, responsable de la Tzedaka. Donc, il devait toujours donner des comptes sur, c'est à lui qu'on donnait la Tzedaka pour qu'il la répartisse. Donc, mais seulement il était, et on dit qu'il était tout à fait à la hauteur, que c'est vraiment un Tzaddik. Mais comment le Tana peut-il nommer un Chacham Tzaddik? C'est d'après le Tosfot Yom Tov qui, le Tosfot Yom Tov, c'est un élève du Maharal. C'était un élève du Maharal, c'est une autorité importante. Et comment est-ce qu'il peut lui entendre que tzaddik veut dire chacham? Alors, comment est-ce qu'il peut dire une chose pareille? Nous, en vérité, on a appris que le tzaddik, ça désigne celui, ici, dans le cadre du conflit, ça désigne celui qui a raison, celui qui dit la vérité. Donc le Tana, il est en train de nous dire ici que souvent, les Chachamim de la Mishnah, ils se disputent l'un avec l'autre. Un dit c'est permis et l'autre dit c'est interdit, sur la même situation. Et Hazal dit là-dessus, Elou ve'elou, ivrei Elokim chayim. Ce que dit l'un et ce que dit l'autre sont toutes des paroles du Dieu de vérité. Alors, en fait, ça soulève un problème. Ça soulève le problème, comment est-il possible qu'il y ait une machloket entre les Chachamim? C'est quoi cette... Bon, on a résolu le problème en disant Elou ve'elou divrei Elokim chayim, mais comme on ne comprend pas exactement comment c'est possible, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Alors, Kamenetsky propose une solution en s'appuyant sur un midrash. Un midrash dont on a déjà parlé dans d'autres... Donc, circonstance, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Vous vous souvenez que quand il s'est agi de créer l'homme, il y avait une machloket entre les malachim. Les uns disaient, il ne faut pas le créer, il est entièrement mensonge. Les autres disaient, il faut le créer parce que c'est un Baal Chesed, il est généreux. Alors, la solution, elle a été qu'Hachem a pris le Emet, dont ceux qui disaient qu'il ne faut pas le créer parce que il est entièrement mensonge, mais il a jeté le Emet à terre. Il a dit, Emet, mais Eretz Titzmach. La vérité, je veux qu'elle provienne d'en bas, pas d'en haut. C'est-à-dire, Hachem a fait exister une notion de vérité qui n'est pas absolue. Ce n'est pas la vérité absolue d'en haut, c'est une vérité humaine, à l'échelle humaine. C'est-à-dire cette idée qu'il y a donc deux niveaux de Emet. Un qu'on appelle Emet Lamita, et puis un Emet Yahasit, un Emet absolu et un Emet relatif. Mais puisque la Torah a été donnée aux Chachmé Israël pour l'étudier, l'enseigner, l'interpréter comme ils le comprennent. Les Chachamim, chacun interprète comme il le comprend. Ils sont tous inspirés, mais comme des artistes qui sont inspirés, mais chacun produit pas les choses, les mêmes choses. Donc, le Hémet a été jeté du ciel vers la terre, ce qui fait que chacun, chaque être humain, chaque terrien, si on peut parler comme ça, est susceptible d'être du côté de la vérité. Donc on peut comprendre ce que la Mishnah elle dit dans Uktzin là-bas, qu'on a cité. Le texte, juste avant ce qu'on a cité, le texte dit Hashem oz le amo iten, Hashem yevarech et amo bashalom. Hashem va donner de la force, de la puissance à son peuple. Hashem va bénir son peuple avec, en lui donnant le shalom. Puisqu'il a jeté le Hémet à terre, et comme chacun peut être vrai, ce que chacun peut dire, enfin, chacun peut dire quelque chose qui est vrai, même si c'est en contradiction avec ce que l'autre a dit, qui est aussi vrai. Donc, du coup, le shalom, ouais, il n'y a plus de shalom, puisque par définition, évidemment, chacun va défendre sa position. Et donc, c'est ça le... Hachem dit en fait, c'est vrai que la notion de shalom, elle va d'une certaine manière disparaître, mais Hachem va donner à chacun un monde entier. En quelque sorte, ça veut dire, d'accord, c'est chacun sera, puisqu'il a un monde entier, il est quand même pas parfait, mais il est assez complet, en quelque sorte. Shalom devient Shalem. Le Shalom est toujours Shalem, mais ici, là, c'est presque comme si on disait il y a un Shalom absolu, un Shalom relatif qui est Shalem. Donc Hachem reconnaît ou donne à chacun la possibilité de construire un monde entier avec ce qu'il est, même si ce monde est un autre monde que le monde que construit son collègue. Quand Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua s'opposent, par exemple, son histoire, la fameuse histoire du fou en question, ils ont raison tous les deux. Chacun est dans un autre monde. Ils sont tellement dans un autre monde que Rabbi Eliezer, il pense que le monde a été créé en automne et Rabbi Yoshua, il pense que le monde a été créé au printemps. C'est déjà le monde entier, c'est des mondes différents puisque créé en automne ou créé au printemps, on a déjà parlé cette histoire de l'obscurité avant la lumière, ou l'hiver avant l'été, etc., ou le contraire. Donc, c'est une façon de voir le monde de façon complètement différente. Et la Torah, quelque part, en nous donnant ce fameux calendrier qui commence au printemps, sans abolir le calendrier qui commence en automne, la Torah enseigne qu'il faut tenir les deux choses en même temps. Et dans les Chachamim, il y a les Chachamim qui disent comme si, c'est comme ça. Alors, dans la halakha, on est bien obligé de trancher, parce qu'on n'est pas capable de faire deux choses contradictoires en même temps. Mais c'est la halakha, mais ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas d'après la halakha se trompe. Se trompe pas. C'est un autre monde. Certains disent, par exemple, que la marloquette entre Hillel et Shammai, c'est Shammai. Nous, pour nous, la halakha, elle est toujours comme Beth Hillel. Mais les Chachamim disent que l'Atid Lavo, dans le monde à venir, la halakha sera comme Beth Shammai. C'est-à-dire, dans le monde à venir, il y aura une exigence à la hauteur. On voit bien que Shammai sont plus exigeants que Hillel. Nous, la halakha, elle est par le moins exigeant. Mais dans le monde à venir où il y aura une forme de perfection, ça pourra aller du côté de celui qui est plus exigeant. Non, c'est pas absolu. C'est très bien que l'autre est aussi dans la vérité, mais il s'oppose parce qu'il pense que dans ce monde-ci, c'est comme ça qu'il faut faire.
Dans l'autre monde ici, moi j'ai un monde, l'autre un monde, mais
Bon, c'est seulement les Fahamim, mais c'est pas n'importe quoi.
bonsoir Val, j'ai une question également.
Pardon?
Bonsoir Val, j'ai une question aussi. Dans ce cas, comment on peut trancher, enfin qu'est-ce qui nous permet de trancher en faveur d'une opinion plutôt que l'autre pour fonder la halakha?
Alors, il y a des règles pour la halakha qui sont que on va d'après la majorité. C'est-à-dire que quand un tribunal doit trancher, il tranche d'après la majorité. Mais
D'accord, merci.
le tribunal, ce qu'il y a de spécifique, c'est que si le tribunal, quand ils ont voté, il y avait cinq, disons qu'il y avait, je ne sais pas, six contre cinq, eh bien, les cinq qui ont été vaincus, qui pensaient autrement, ils n'ont pas le droit comme. On raconte que, comme on voit que ça se fait aux États-Unis, par exemple, chaque juge dit, moi je pensais comme ça, bon, j'ai pas gagné, mais moi je pensais comme ça. Le tribunal, une fois que le tribunal a décidé d'aller d'après la majorité, tout le monde doit faire comme la majorité et personne ne peut dire, moi je pensais autrement. Ils n'ont pas le droit de se dissocier. Le tribunal est, si vous voulez, il est responsable en tant que tribunal. Le tribunal. Tu appartiens au tribunal, tu dois tenir la position du tribunal. Tu pouvais te battre avant qu'on décide, mais une fois qu'on a décidé, tu dois t'écraser et tu dois tenir la position du tribunal.
D'accord, merci beaucoup.
Okay. Bien, alors on va maintenant regarder dans le passouk 24-16. Remonter un petit peu. Chapitre 24, chapitre précédent, au passouk 16. Le passage dit Lo yumtu avot al banim, ou vanim lo yumtu al avot. Ish becheto yumatu. Littéralement, les enfants ne mourront pas, pardon, les parents ne mourront pas pour les fautes faites par leurs enfants, ni les enfants pour les fautes commises par leurs parents, chacun mourra pour sa propre faute. Alors, c'est toujours un enseignement de Marc Kamenetsky. Il ramène un sforno. Le sforno, c'était un rishon italien, un médecin, un grand haram, qui a fait un commentaire très important de la Torah. Le sforno dit comme ça. Afilu al-chet, amored, le malchut Israël, même si quelqu'un a fait une faute, et sa faute c'est de se révolter contre un roi en Israël, qu'on n'a pas le droit de faire évidemment. Sheminag ha-malachim ha-kadmonim, c'était l'habitude des rois, des anciens, des modernes aussi. Aya la rog et kol et bneyem che lo yakumu sonim la malchut. C'est-à-dire, il y avait l'habitude que si quelqu'un se révolte contre le roi tuait celui qui s'est révolté, mais il tuait aussi tous ses enfants. Il ne voulait pas qu'il reste une trace de cette révolte contre lui. Donc la Torah, elle vient, elle dit, les rois d'Israël n'ont pas le droit de procéder ainsi. C'est l'expression du souci d'Hachem pour son peuple. Et le roi Amatsio, roi d'Juda, il a procédé comme ça. Dans le passage que c'est écrit dans Divrei Hayamim, Vayi kaasher chaska amamlacha, quand il a eu fortifié la royauté, Vayaharog et avadav, amakimet amelech, aviv vet bnehem lo imit. Donc il a, quand il en était capable, il a tué ceux qui étaient révoltés contre le roi, son père, mais leurs enfants, il ne les a pas tués. Comme il est écrit dans la Torah, dans le livre de Moshe, c'est-à-dire dans Devarim, qui est le livre que Moshe Rabbeinu a écrit. Asher tziva Hashem lemor lo yomtu avot al banim ou banim lo yomtu al avot. Adkan, donc jusque ça, c'est la citation dans Divrei Hayamim. Pour Béhémeth, on voit que il en va de même, Bimé Malchut Israël, ce qu'on trouve effectivement dans Shmuel Bet, que Mephibosheth a dit à David, Iloayu kolbet avi, imanche mavet l'adoni amelech. Il lui a dit effectivement, toute la famille n'est pas passible de mort. Il y a seulement ceux qui méritent la mort par rapport à toi, mon roi. Donc, Sforno cite effectivement ce passou pour dire que la Torah, elle vient dire quelque chose ici. Lui, il met ça quasiment dans un cadre historique. La Torah, elle vient couper avec des pratiques de l'époque. On vous remontait encore un petit peu, toujours dans ce passouk, dans ce chapitre 24, jusqu'au premier verset. Le verset dit, Kikach ish isha ou baala, si un homme donne des kiddushin à une femme, ensuite il vit maritalement avec elle, vehaya, Imlo timtsachen be'enav. Et maintenant, s'il arrive qu'elle ne lui plaise plus, timatsaba ervat davar, pas simplement qu'elle avait une tête qui ne revenait plus, mais il a trouvé ervat davar, il a trouvé qu'elle faisait quelque chose qui est interdit dans le monde des haraïotes, dans le monde des relations interdite. Vekatav la Sefer Kitut. Il devra lui écrire un guet. Venatan Beyada. Et ce document-là, il doit le donner dans sa main. Veshilcha mi beto, il la chassera de sa maison. Dans la Mishnah, sur ce sujet-là, dans la Mishnah dans Gittin, il y a une machloket Tanaïm, une machloket entre les maîtres de la Mishnah. Beth Hillel disent, Afilo igdi chatafshilo, il y a une grande discussion pour savoir dans quelles conditions est-ce qu'on a le droit de divorcer. Alors, c'est très connu. Beth Hillel disent, on peut divorcer même si la femme, elle a brûlé le repas. Rabbi Akiva Omer, Afilou Matsa Acheret Rabbi Akiva, il peut dire on peut divorcer même s'il en a trouvé qui est plus belle, une plus belle que celle qu'il a. Et a priori, il faut expliquer. Parce que pourquoi la Torah permet-elle à un homme de divorcer de sa femme uniquement parce qu'elle a brûlé le repas ou parce que on a trouvé une plus belle? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, cette femme? Elle a raté un repas. Ou bien elle est ce qu'elle est. Il existe d'autres femmes plus belles. Alors, Rav Kamenetsky dit, la Torah, elle vient nous dire ici, qu'est-ce que c'est que le mariage? Quand la dame l'archov Bon, c'est une théorie, hein, on verra si vous êtes d'accord. Toute femme sur son mari, et il dit la même chose du mari sur sa femme, non, là, lui, il dit sur l'homme par rapport à sa femme, il dit une femme par rapport à son mari d'abord, ça on ajoute. Doit penser que le conjoint en question, il a toutes les qualités. Il est ou elle est. Elle est la plus chachama, elle est la plus belle, elle est la meilleure. Elle est meilleure que toutes les autres femmes du monde. Matsa Et si il a trouvé qu'il y avait une femme qui était plus belle que la sienne, ça veut dire qu'il ne considère plus que sa femme est la plus belle. Alors ça veut dire que leur couple n'est plus complètement adéquat. Et même chose si elle n'est pas la meilleure cuisinière. Bon, il y a une règle générale que, en fait, on ne peut pas vraiment se juger. Par exemple, quand quelqu'un a dit quelque chose, a échappé, qu'il n'avait pas l'intention de dire, bon, il ne va pas se mettre en colère contre sa bouche. Parce que sa bouche et lui, c'est la même chose. Il ne va pas dire à sa bouche qu'elle n'aurait jamais dû dire cette chose-là, puisque lui, il voulait pas qu'elle la dise, qu'elle le dise. Et donc, si il a maintenant un reproche à faire parce qu'elle a brûlé le repas, c'est que il ne se sent pas complètement uni avec elle, comme il le faudrait. Et c'est ça qu'on veut dire. Ça revient à la fameuse blague qu'on raconte toujours. Rabbi Arya Levin, qui est allé chez le médecin avec sa femme, et il arrive et il dit, nous avons mal aux pieds de ma femme. C'est comme ça que ça doit être, en fait. Donc, il peut divorcer parce que, voilà, il n'y a plus d'unité. Donc, finalement, ce n'est pas parce qu'elle a brûlé le repas qu'il divorce. C'est parce que il se rend compte que je peux avoir un reproche à lui faire, alors que je ne me fais jamais de reproche à moi-même. Voilà, c'est une partie de moi-même. Donc, je ne peux pas faire des reproches. Alors, il dit, en vérité, ce niveau-là, il est extrêmement difficile à atteindre. Comment est-ce qu'on peut imaginer que deux personnes différentes arrivent à se mélanger, à s'unir, de façon à être quasiment gouf echad, un seul corps? C'est complètement non naturel. Alors en vérité, c'est ce que disent l'Agmara dans Maseret Sota. L'Agmara, elle dit, cachez les afghans qui crient Tiam Souf. C'est difficile de mettre ensemble un homme et une femme, c'est aussi difficile que de fendre la mer. Le monde pose la question. Ça, c'est dit sur Hachem. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dit sur Hachem? Il a créé le monde. Bon, qu'est-ce qui est difficile pour lui? C'est difficile, le fait de fendre la mer? L'explication, elle est que Hachem, comme Passouk dit, Hachem bechokhma yasad aretz. Hachem a fondé la terre par la sagesse. C'est-à-dire que tout ce qu'Hachem a mis, toutes les règles, toutes les sensibilités qu'Hachem a mises dans le monde, ça a été fait de façon, ça a été fait avec la sagesse divine. Donc quand il faut changer la nature, alors ça veut dire que il faut changer la sagesse divine. Fendre la mer, elle n'a pas été faite pour être fendue. Quand Hachem a créé la mer, il a créé quelque chose qui n'est pas fendu. C'est comme si on demandait à quelqu'un, à un sage, de faire quelque chose de faire quelque chose de d'incompréhensible. D'idiot. C'est difficile pour lui. Donc de faire d'assécher la mer, c'est difficile pour Akadosh Baruch Hu. De la même manière, fabriquer un couple, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des liens entre deux corps différents au point de faire un seul corps, ça c'est un lien qui est au-dessus des forces de l'homme. Mais au-dessus des forces de l'homme, c'est force qu'Hachem a mise dans l'homme. C'est pour ça que c'est tellement difficile et que c'est aussi difficile que Kriyat Yam Suf. Alors il faut dire qu'Hachem a voulu alléger la situation. C'est pour ça qu'au départ, il a créé un être qui était à la fois Zachar et Nekeva. C'est-à-dire, il y avait. Les deux éléments étaient dans un même corps. En d'autres termes, cette union, elle a déjà existé. C'est comme ça qu'il faut entendre Chazal, quand Chazal disent que Arba'im Yom Kodem Yetzirat Havlad, Machizim Bat Ploni le Ploni. Chazal disent que 40 ans avant la conception d'un embryon, il y a une voix qui annonce la fille de Toto épousera Titi. Ça veut dire que dès la formation de cette créature, de cet homme-là, disons, il est déjà une part d'une entité avec la femme qu'il va épouser. Donc, dès le départ, ils sont deux parties d'un seul et même corps. Kol echad mehem be'emet ura kratzi midavar shalem. Be'emet, chacun est la moitié d'une entité. Et donc, quand ils se marient, en fait, c'est juste que chacun complète la part qu'il savait, qu'il lui manque, en fait. C'est comme ça qu'on peut arriver au but des Nisouin, à cette union, faire quasiment un seul corps. Si vous voulez vous exprimer sur la situation, vous pouvez. Pardon, c'est pourquoi c'est misogyne? Mais c'est pas misogyne. Mais bien sûr, la Torah elle s'adresse à l'homme, mais là, il a pris le il a pris la précaution de dire que ce qu'il disait était vrai dans les deux sens. Ensuite, dans la halakha de Guitine, effectivement, la femme, quand elle a accepté de se marier, elle a accepté de devenir dépendante de ce mari. C'est vrai, une femme, quand elle se marie, elle aliène une partie de sa liberté. C'est vrai. Mais elle l'a fait en toute connaissance, enfin, elle était censée le faire en toute connaissance de cause. C'est vrai.
Et là, j'ai l'impression.
C'est-à-dire, c'est pas ça que.
Non, non, c'est pas ça qui me paraît.
Ah bon, d'accord, alors c'est très bien.
Non, c'est que chez on parle de deux mondes. Il y a aussi le relatif et l'absolu. Quand un bébé naît, au bout de 40 jours, c'est-à-dire 40, je crois que vous avez dit que c'est un terme ou
Mais
pas.
c'est pas au bout de 40 jours, c'est 40 jours avant.
40 jours avant. Il y a, avant qu'il naisse,
Oui, avant qu'il soit bien conçu.
avant qu'il soit. Donc, on n'est pas dans un monde là où
Ou quoi?
c'est pas un monde relatif. Là,
Mais il y a
c'est.
toujours une possibilité, il y a une notion de zivoug sheni dans la Torah. Il y a un second mariage possible.
Dans lequel il n'y a pas les mêmes données, je croyais
Et la donne n'est
que.
pas la même. Là-bas, la Gemara a dit que ça, le deuxième zivoug, il dépend complètement des conduites des parties. Il y a plus cette. Il faut comprendre que la détermination n'est pas du tout absolue, justement. Puisque je peux décider. C'est vrai que c'est décidé, mais il peut justement divorcer. On peut divorcer.
Puis ensuite, on revient dans le relatif.
Non, c'est
Bah, sinon, moi, je ne comprends pas
ça. Ok,
autrement.
je ne peux pas. Oui.
Attends, mais dans ce cas-là, la femme, elle n'a pas l'obligation
Elle, elle.
comment.
Justement, peut-être que la raison pour laquelle elle n'a pas l'obligation de se marier, c'est qu'en se mariant, elle aliène une partie de sa liberté. Donc, on ne peut pas obliger quelqu'un à aliéner sa liberté.
Elle est aussi le site de quelqu'un si elle se
Elle
marie.
est un zibouge et elle peut décider, et comme lui peut décider de ne pas la prendre, elle peut aussi décider de ne pas le prendre. Chacun a la liberté. Il y a une espèce de facilité. Quand ça marche vraiment, c'est qu'on a trouvé ce qu'il fallait. Mais on peut très bien ne pas le faire marcher ou ne pas le faire du tout. Quelqu'un peut dire, OK, moi, je ne veux pas. C'est vrai que je suis le zibouk de X ou Y. Je n'ai pas envie de faire ma vie de cette manière-là. Ma femme est libre. Pardon? Alors il va chercher quelqu'un d'autre. Il est pour lui, ça sera Zivouk Sheni. C'est pas un deuxième mariage, mais c'est un Zivouk Sheni. Donc il va prendre quelqu'un pour lequel il est lui aussi le Zivouk Sheni. C'est plus la même. C'est pas sur le Zivouk Sheni qu'on a annoncé 40 ans, 40 avant la conception. Ça veut dire que ils n'ont pas cette, dans un zibouk chéni, on n'a pas l'aide de cette prédestination. Faut faire le boulot tout seul. Oui, c'est peut-être plus difficile. D'ailleurs, on voit très bien que certains disent que très souvent dans un zibouk chéni, si on dit que si on avait mis autant d'énergie qu'on met pour faire marcher les zibouk chéni dans 3 000 zibouk, il aurait peut-être marché aussi. Là, je voudrais dire que il y a un autre enseignement d'un Aaron sur Ben Sorer ou Moré. Comme vous savez, on peut lire les 3 premiers paragraphes de la Torah, dans cette paracha, comme si en fait c'était une seule et même histoire. L'histoire de la belle captive, et puis ensuite le bonhomme en question, il va se retrouver avec 2 femmes, et finalement la femme qu'il n'a épousée que parce qu'elle était belle, mais qu'il ne connaissait pas du tout, il a pas apprécié autre qualité. Tout ce qu'il a vu, c'est qu'elle était belle. Il a eu du désir pour elle et finalement, il l'a épousée. Au bout d'un certain moment, peut-être que ce sera plus aussi désirable. Donc, il y aura 2 femmes qui n'ont pas le même statut. Et bon, c'est une situation tout à fait particulière parce qu'il faut imaginer qu'il était un tout nouveau marié qui a fait la guerre. Donc c'était pas il était déjà marié, c'est pas seulement fiancé, il était marié, mais il n'avait pas encore d'enfant. Il va avoir avec la captive un enfant avant d'avoir un enfant avec sa première femme. Et c'est l'enfant de la captive qui aura donc le statut d'un premier-né. Mais comme il n'aime plus tellement cette captive, il aurait vraiment envie que son premier-né, celui qui va vraiment être son successeur, celui qui va jouer le rôle du premier-né, il voudrait que ce soit l'enfant de la femme aimée. Et la Torah dit, n'en est pas question. celui qui est né, c'est celui qui est né le premier, c'est tout. Point barre. Que ça te plaise ou non. Et du coup, l'éducation de cet enfant, dont les parents sont lui et la captive, cette éducation, elle va être pas tellement réussie. Et donc, ça va donner ce fameux Ben Sorer Umore, cet enfant, parce qu'il est juste avant la bar mitzvah, que les parents vont quasiment condamner à mort, parce qu'on pense que il est sur une trajectoire qui va obligatoirement l'amener à devenir quasiment un assassin, et qu'on veut le tuer, il vaut mieux qu'il meure innocent que de mourir fautif. Bon, il est clair que les conditions pour toute cette opération se passe font que c'est complètement artificiel. On n'aura jamais une telle situation. Alors pourquoi est-ce que ça vient enseigner? Alors du coup, il y a plusieurs façons de lire. Justement, certains veulent lire que les parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Simplement, ils n'arrivent pas. Il n'y arrive pas. C'est seulement si le tribunal évalue que les parents ont fait tout ce qu'il fallait, absolument tout ce qu'il fallait, et que malgré tout l'enfant il tourne mal, on décide qu'on va le condamner à mort. Tout ça c'est donc totalement théorique. Mais même ça, hein, donc. Mais on peut aussi dire que une des raisons pour lesquelles cet enfant est condamné à mort, si on peut parler comme ça, c'est parce que les parents n'ont pas fait tout ce qu'il fallait. Une des conditions qui sont dites dans la paracha, vous le connaissez, c'est pas ça qu'on le relit ensemble, une des conditions, c'est de dire que les parents parlent d'une seule et même voix. Et la Gemara, elle considère que quand on dit qu'ils parlent d'une seule et même voix, c'est pas qu'ils sont d'accord sur les idées, c'est qu'ils ont le même ton de voix. Ils disent les mêmes mots quasiment, et ils ont le même ton de voix. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet enfant, il n'a pas deux parents. Il n'en a qu'un seul. Il a un parent et un perroquet. Or, Chazal enseigne toujours que les parents dans l'éducation, ils doivent jouer ensemble. C'est-à-dire que si un interdit quelque chose, il ne faut pas que l'autre dise c'est complètement permis, mais il faut que l'autre trouve un moyen d'entrouvrir un peu la porte pour que l'enfant il puisse s'en sortir. Sinon, il est devant un mur et il n'a pas d'autre solution que de se fracasser contre le mur. Or, si la femme en question, la mère de cet enfant, c'est la captive, cette captive-là, on ne lui a pas demandé son avis. Ce mariage-là entre cet homme et cette femme, c'est un mariage qui halakhiquement ne devrait pas être permis. Parce qu'on n'a pas le droit d'épouser une femme contre son consentement. On ne peut pas épouser une femme si elle n'est pas d'accord. Or, cette femme-là, elle n'était pas d'accord. Il l'a épousée contre son gré. Par conséquent, le mariage en question, il n'est pas vraiment un mariage selon toutes les règles. Ça fait partie de ce qu'on aurait accepté pour, dans cette histoire de la captive, la fameuse belle captive. Mais cette femme-là, elle n'a rien à dire dans l'affaire. On ne lui demande pas son avis. Et donc, elle ne peut que dire la même chose que son mari. Donc, en fait, par rapport à l'enfant, il y a cette idée que cet enfant-là, il n'a pas un père et une mère. Il n'a que la voix du père. La voix de la mère, c'est simplement une répétition de la voix du père. Et donc, du coup, on peut dire que cet enfant, il n'a aucune chance de s'en sortir parce qu'il est devant un mur. Il n'y a pas d'ouverture possible. Il a quelqu'un qui est sa mère biologique, mais qui ne peut pas jouer son rôle de mère parce qu'elle n'a jamais été reconnue comme telle. Si cet enfant il est né avant l'enfant de la femme aimée, son père il voulait pas que ce soit lui le premier. La Torah l'y a obligé, mais il ne voulait pas ça. Donc c'est un enfant qui n'a pas du tout des conditions normales pour pouvoir se développer. Donc quand on dit qu'il est condamnable à mort, il est condamné à mort, parce que ses parents l'ont condamné à mort pour ce qu'ils sont, eux, et pas tellement pour ce qu'il est lui, parce que on voit bien qu'il y a quelque chose de particulier qui est dit là, parce que on présente cet enfant comme si c'était un bonhomme, un garçon qui mange des quantités de viande et qui boit du vin. La Gemara, quand elle demande combien de viande il mange et combien de vin il boit. Et un steak par jour, éventuellement, peut-être un petit steak, pas plus que ça. Il y a du vin, il y a un verre de vin. Alors c'est vrai qu'il a habitué à avoir, disons qu'il a l'habitude d'avoir, quoi, tous les enfants qui sont élevés dans des familles où on mange de la viande et on boit éventuellement du vin tous les jours à tous les repas, enfin, ou à un repas principal, ils sont dans cette situation-là. Mais là, on pense que lui, il s'est habitué. Et si jamais il y a un jour où il n'a pas ça, alors il va violenter le monde entier, quoi, y compris, il va arrêter les diligences, et dépouiller les gens. Oui, c'est possible, effectivement. Parce qu'il n'a pas à qui parler. Effectivement, personne ne s'occupait de lui. Si on le laisse se développer de cette manière-là, effectivement, il va vraiment mal tourner. Mais, je veux dire, je vous dis, certains disent que les parents ont fait tout ce qu'il fallait, mais je crois qu'on peut aussi bien lire que pas du tout. En fait, de façon générale, quand quelqu'un est condamné à mort, c'est parce que il a fait quelque chose, mais en toute connaissance de cause, etc., dans une révolte complète contre Hachem. C'est toutes les conditions qu'il faut pour pouvoir condamner quelqu'un. Ça veut dire qu'en réalité, il était déjà mort spirituellement. Quand il a tué, quand il a violé ou ce qu'il a fait, ça n'était que l'expression de ce qu'il était à ce moment-là. Il n'est pas mis à mort pour l'acte qu'il a fait simplement. Si cet acte-là ne lui correspondait pas, quand les témoins lui ont dit, tu sais que tu vas transgresser ça et ça, tu es en cours, ben il va pas le faire. Donc s'il le fait, et s'il dit même, je le fais en toute connaissance de cause, et c'est quasiment dans ma révolte contre la loi de la Torah que je le fais. D'accord? C'est donc, ça n'est que l'expression de quelque chose qui est en lui. Donc, quand on dit qu'il est condamné à mort, c'est en fait, il est. On condamne à mort quelqu'un qui était déjà mort spirituellement. En fait. À part ça, donc, la condamnation à mort, du coup, elle devient tout à fait théorique. Mais c'est ça que la Torah veut nous dire. Il y a des conduites Ce sont des conduites qui vous tuent. Vous êtes mort. Spirituellement, vous êtes mort. La vérité, c'est que quand Hachem a dit, hey, regarde, je mets devant toi la vie, enfin, la vie est le bien et la mort est le mal, ça veut dire le mal et la mort, ça va ensemble. Quand tu fais le mal, tu es mort. La tchouva, comme on a vu dans d'autres shiurim, la tchouva, c'est triatametim. Si tu fais tchouva, tu revis. Mais en réalité, tu étais mort à cause de la faute que tu as faite. La faute, elle nous tue. Mais la faute qui tue vraiment, c'est une faute sur laquelle il y a donc cette fameuse peine de mort. Mais la peine de mort, elle n'existe que dans des conditions tout à fait particulières. Avec des témoins qui le mettent en garde, qui lui disent de ne pas le faire, etc. Et lui, il discute avec eux. Et il dit, mais je le fais pour ça, je le fais pour que vous me tuiez. Je suis en train de proclamer que la loi d'Hachem, elle est impossible. Vous êtes obligé de me tuer. Vous pouvez même pas, vous n'arrivez pas à me convaincre. Vous êtes obligé de me tuer. Proclame que, voilà, c'est vrai. C'est tout à fait particulier. Pardon, c'est? Ne l'ayez pas tué, justement. On le tue, ça n'existe pas là. Ça, personne n'a jamais. Mais là, justement pas. C'est-à-dire que justement, lui, son chemin, il est. C'est les parents qui l'ont tué. C'est ce que je veux dire, c'est les parents l'ont
Oui.
Ben, il a. C'est une façon de dire à des parents, si vous conduisez comme ça, vous tuez votre enfant. Puisque ce n'est pas pour dire quelque chose qui se réalise, c'est pour en tirer un enseignement. Alors, ou bien on peut tirer un enseignement du style, quand les parents ont fait vraiment tout ce qu'il faut, il existe des situations où ça leur fait tellement mal de voir leur enfant mal tourner, que le tribunal a quasiment pitié d'eux et ont tué l'enfant pour leur éviter d'avoir tellement mal. J'ai beaucoup de mal avec cette explication-là. De l'homoparentalité. Bon, c'est qu'il y a des gens qui disent que tout le monde peut jouer tous les rôles. Donc, à la limite, tu mets deux femmes ensemble et une joue le rôle du père et l'autre joue le rôle de la mère. Donc, si cela était vrai, l'enfant, il aurait deux parents parfaits. Peu importe que. On se débrouille. Mais la question est de savoir est-ce que c'est vrai? Et a priori, nous, on pense que c'est pas vrai. Les Japonais disent que quand tu te bats contre quelqu'un, faut toujours lui laisser une possibilité pour s'enfuir. Parce que sinon, il va trouver s'il est coincé, il va trouver des énergies dont tu ne peux pas imaginer qu'il les avait, en désespoir de cause. Je peux pas y aller. Il va casser le mur, il va te casser la figure, même si tu es beaucoup plus fort que lui. Mais laisse-lui la possibilité de s'enfuir. C'est comme si tu n'avais pas vu qu'il pouvait s'enfuir. Laisse-le partir.
Je
A priori, il faut aussi que le mâle soit, ait les qualités qu'on attend d'un mâle, et la femelle, dans l'occurrence la femme, ou la mère, ait les qualités qu'on attend d'une mère, parce que si justement ils n'ont pas les qualités qu'on attend d'eux, ils jouent pas le rôle qu'il faut. Donc, on peut imaginer qu'il y ait des gens qui ne jouent pas leur rôle. Enfin, malheureusement, ça existe. Ils ne jouent pas leur rôle parce qu'ils n'ont pas la force de le jouer, peut-être. Peut-être ça vient de leur enfance ou comme on dit aujourd'hui, peut-être de, je sais pas, 3 générations précédentes. Mais bon, de facto, ils jouent pas leur rôle. Voilà, on s'arrête là.